Africa.
La diaspora africaine, c'est une émission sur l'actualité, la culture, la formation, le coaching, les valeurs et les enjeux en Afrique, tous les mardis de 12h à 14h sur la radio News FM.
Ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique.
Chers auditeurs, pour faire suite à l'émission sur la diaspora africaine, juste pour rappel, nous étions en train déjà de faire un exposé des chroniques sur le mariage en Afrique, ainsi de la diaspora africaine. Alors un petit rappel sur ce qui concerne les deux familles des futurs mariés doivent se connaître, voir les points communs, les valeurs d'origine, et puis surtout, ce qui existe aussi beaucoup en Afrique et de nos jours encore, c'est les castres. On en reparlera un peu plus tard. Voilà, donc précédemment, nous avons parlé en tout cas des origines, des cultures. La femme, comme étant désignée comme ministère de l'Environnement, c'est quand même joli comme casquette et rôle. Alors pourquoi ministère de l'Environnement dans ses missions en tant que femme dans la diaspora africaine, mais aussi en Afrique? Et je pense que voilà, ça peut être aussi commun à d'autres cultures du monde. Alors, ministère de l'Environnement, parce que la femme a pour rôle aussi et pilier important dans le ménage, la société, dans sa famille, dans son foyer, en tout cas, en voyant tout ce qui est plausible, faisable pour ses enfants, l'éducation des enfants, tout ce qui est hygiène aussi de la maison, garder de sorte que les enfants puissent aussi être bien vêtus, voilà, qui a mangé, qui est une technicienne de surface ou pas, mais en tout cas, tout ce qui est annexe de la maison, comme le rôle de ministère de l'Environnement. D'accord ? Et devant cette femme ou aux côtés de cette femme, le mari, le futur époux, qui aura comme rôle chef de famille. En tout cas, dans une collaboration étroite entre la femme et le mari, pour que ses missions de chef de famille soient en tout cas plausibles, faisables et dans de bonnes conditions, ben compte bien sur le rôle de la femme comme étant ministre de l'Environnement. Et bien, tant d'autres missions, collaboration affective de conseiller entre époux sont aussi nécessaires pour mener à bien, en tout cas, la réussite du mariage. Alors, une période cruciale, qui est aussi très très importante, c'est avant mariage. Donc, avant mariage, que ce soit dans la diaspora africaine ou en Afrique, on peut parler de fiançailles, d'accord ? Demande de main. Ça permet de se positionner pour, en tout cas, les préparatifs de mariage. Ça permet aussi de se positionner pour aussi que les époux puissent apprendre à mieux se connaître dans les fiançailles qui sont beaucoup plus avancées qu'une demande de main, parce que les demandes de main, souvent en Afrique ou dans la diaspora, on va dire même dans la diaspora africaine, c'est un peu la mentalité, les cultures de l'Afrique qui sont vraiment, on va dire, importées ici. Donc, sauf après des parents ou des familles avec une éducation, avec une vision un peu mixée entre l'Afrique et l'Europe, ça peut se passer autrement. Mais en tout cas, les fiançailles, souvent, quand les jeunes ou les futurs époux, tout simplement, aient ce choix de se dire « on va se fiancer », ça veut dire qu'il y a une période en amont, c'est-à-dire se connaissent à peu près, ou tout simplement veulent aller, en tout cas, franchir un autre pas, beaucoup plus sérieux que du copain-copinage, ils peuvent évoquer en général les fiançailles. D'accord ? Et les fiançailles, pour les familles, c'est aussi un peu comme pré-mariage et la rencontre des deux familles et qui, éventuellement, que ce soit la demande des futurs époux, que ce soit tout simplement les parents qui peuvent aussi, les familles, qui peuvent encourager à ce que les deux copains et copines ou alors voilà, les deux amoureux de pouvoir concrétiser à défaut du mariage, au moins parler de fiançailles. Bon, ça peut être aussi juste des influences, mais on va dire de bienveillance. Par contre, la demande de main, C'est un peu, ça dépend aussi hein, des confessions religieuses, que ce soit chez les chrétiens de la diaspora africaine ou en Afrique ou chez les musulmans, etc., etc. La demande de main, ça peut être la période, juste avant le mariage, les parents, les deux familles apprennent à se connaître. Donc souvent, ce sont les futurs époux hein, qui se sont prêts à pouvoir, en tout cas, inviter leur famille à se rencontrer, à se connaître, donc organise cette demande de main. D'accord? Cette demande de main se fait souvent à la demande des futurs époux et là on actionne, il y a la coordination, d'accord, de la famille du côté de la fille et ainsi du côté du futur époux. D'accord? Et là ça peut être soit une demande de main qui peut aller à l'intervalle d'une semaine après, il y a déjà la date de mariage qui est fixée. Et souvent ça, on le rencontre dans la diaspora africaine ou en Afrique pour ceux qui sont vraiment issus de la confession musulmane. Parce que dès qu'il y a une demande de main, ça veut dire qu'ils sont prêts à pouvoir concrétiser quelque chose, les futurs époux, les jeunes. Donc dans ce sens-là, dans la religion de confession, on va dire, musulmane, dès que les jeunes se disent « on est prêts », on veut que nos deux familles se rencontrent, se connaissent, voir nos cultures et nous bénir de quelque chose qui est le mariage. En général, ils ne mettent pas de temps parce qu'ils disent que ça interdit de laisser les jeunes aller dans le jeu de concubinage. Donc, on facilite les choses. Donc, en général, quand on dit demande de main, sauf avis contraire, sauf voilà, la vision des époux qui veulent faire un grand mariage ou pas, en général, en Afrique ou dans la diaspora, en une semaine, on donne déjà la date. Si tout va bien, les cultures, les mœurs, c'est tout colle. En général, ça se passe très rapidement. Il peut y avoir aussi demande de main, d'accord, pour toute personne confondue, en général, dans la diaspora ou en Afrique, où aujourd'hui on se présente. En général, ça se passe comment? Pour une demande de main, si les futurs époux sont prêts et d'accord de faire connaître les deux familles et leur intention de s'unir prochainement ou dans les mois à venir, qu'est-ce qui s'y passe souvent? Souvent, il se passe que la fille, d'accord, avise ses parents et ça dépend aussi dans quel cadre c'est. Souvent, la fille est représentée soit par son père, soit son oncle. Et pourquoi son oncle? Parce que oncle est désigné à un rôle capital chez la fille, parce que l'oncle, souvent, d'accord, est même dénommé être le frère à sa mère. Donc c'est pour les familles matrika. Donc pour les familles matrika, l'oncle joue un rôle important dans le mariage de sa nièce. Est désigné même avant, on va dire, il y aura quand même porte-parole du père de la fille, mais l'oncle et avec quelques membres de la famille, d'accord, attendent dans leur maison de famille, dans leur foyer de la fille, en tout cas, donc attendent éventuellement l'arrivée de parents de la famille du futur époux, donc le futur mari. Ça se passe comme ça souvent. Et ils viennent rencontrer soit le père est avec l'oncle ou soit l'oncle qui fera porte-parole de toute la famille. Avant cela, il y a concertation, bien sûr. La famille peut dire, on vient faire une demande de main pour notre fille, d'accord? Les familles très matrika, la mère donne sa voix en disant, bien sûr, j'aurais bien aimé pour la bienveillance de ma fille que lors de cette demande de main, son oncle soit en tout cas la personne qui aura la parole. Bien sûr, cette parole portée par la parole de toute la famille derrière, côté fille. Et là, aura souvent, de l'autre côté, la famille du futur mari, donc du futur mari, soit souvent c'est son oncle qui arrive aussi, si c'est vraiment côté matrika, pour aussi donner des valeurs, les mœurs du côté de la maman, ou parfois ça peut être son père qui vient avec d'autres membres de la famille. Et assez souvent, en Afrique ou dans la diaspora, c'est son père qui arrive, d'accord, pour faire la demande de main à sa future belle-fille dans la famille, qui va les accueillir, la famille de l'épouse, future épouse. D'accord? Donc ça se passe comme ça. Et dans les familles où c'est vraiment patriarcat qui domine, il n'y a pas trop de... Voilà, il n'y a pas trop... de mise en place d'un oncle, ça peut être tout simplement le père qui attend, l'oncle, etc. Dans la famille Matrika, pourquoi c'est important à ce que l'oncle soit là? Parce que la maman de la future mariée s'inquiète beaucoup sur la bienveillance, des traditions, des valeurs à perpétuer, etc. et de sa fille. Et donc, c'est important d'être très proche de son frère et son frère qui est l'oncle de la fille, de pouvoir, en tout cas, retransmettre dans la discussion, dans la présentation, se connaître entre les deux familles, quelles sont les valeurs, les visions. Parce qu'en Afrique, on dit souvent, et même dans la diaspora africaine, c'est pas que deux jeunes, deux enfants ou deux époux qui se, futurs époux qui se marient, mais c'est plutôt deux familles, hein, d'accord, qui s'unissent. Donc les valeurs, les principes, les visions sont très très importantes. Voilà. Raison pour laquelle il faut quand même scinder, comme par exemple au Sénégal, on a la famille des Serères, dont souvent dans la famille des Serères, il y a quand même ce côté très matriarcal, où c'est la maman, d'accord, et souvent c'est l'oncle qui attend une demande de main, la famille du futur époux, pour aussi, oui, parler des valeurs côté paternel, mais aussi bien mettre en avant la culture, la vision et tout ce dont il faut transmettre pour la bienveillance, de prendre bien en charge, bien prendre bien en tout cas en compte des valeurs du mariage pour leur fille. D'accord? Et voilà, donc dans ce sens, c'est vraiment les demandes de main, comme évoqué tout à l'heure. Se positionner, c'est important. Et la présentation des deux familles afin de se connaître, comme dit tout à l'heure, pour avoir bien sûr une suite favorable ou pas. Et chaque famille se présente et partage sa culture et vision. Là, il y a vraiment, on va dire, l'équité. Hein, c'est vraiment côté du futur mari ou de la future épouse, où il y a une présentation, une discussion qui se fait chez la fille. Voilà, la demande de main, les fiançailles, c'est souvent, pour, je pense, une notion de galanterie, que c'est la famille du futur mari qui se déplace pour aller demander de main, pour symbole, voilà, déjà de gentleman, et pour symbole tout simplement de sérieux, mais aussi parce qu'on demande une main. Quand on demande une main, en tout cas, c'est pour venir prendre une femme pour épouse et l'amener chez soi. Donc, c'est tout à fait normal que la famille, du futur mari se déplace, dans ce sens. D'accord? Il y a quand même des petites divergences et convergences. Vous allez voir de temps en temps sur nos chroniques de l'exposé. On va s'arrêter sur des points importants et focus où on va donner notre avis et on va recommander des conseils, etc. Ben, cela sert à ça, de faire des émissions sur la diaspora africaine, mais aussi de ce qui s'y passe en Afrique. Alors, cela se trouve que dans la diaspora africaine, à ce stade, les enfants se connaissent déjà. D'accord? Parfois se connaissent déjà, parfois se sont fréquentés depuis un moment. D'accord? Et donc, parfois, c'est un peu plus compliqué quand, bien sûr, je commençais par la diaspora africaine, si les parents issus de ces futurs époux sont très de valeurs authentiques, ne sont pas trop dans, en tout cas, l'éducation avérée pour se permettre de certaines choses. Il y a des parents encore qui sont des valeurs, ont des valeurs authentiques, qui éventuellement, c'est tellement important, d'accord, et ils sont ancrés dans leur tradition, c'est tellement important que les futurs mariés, comme ils disent vraiment souvent, et ça peut se justifier, après on verra le pour et le contre, qui se rassemblent, s'assemblent. Donc, ils sont beaucoup plus dans l'idée, les futurs mariés doivent à peu près venir du même coin ou des mêmes valeurs. Et s'ils ne sont pas du même coin, mais se connaître davantage pour être sûr qu'on peut au moins mettre un peu à l'écart de l'échec dans leur futur projet de mariage. Donc, pour les parents issus de la diaspora, qui sont vraiment ancrés dans des valeurs très authentiques, d'accord, là, il peut y avoir, on va voir plus tard, hein, ce qui est vraiment avantageux, ce qui peut être bien et ce qui a à abolir, ce qui a à arrêter, ce qui a, voilà, on va dire mixer, redynamiser, revoir ou bien sûr, hein, d'autres valeurs à encore maintenir parce que qui sont bien. Parce que dans une personne authentique, il n'y a pas que le bon côté, il peut y avoir d'autres choses, hein, qui, de notre temps, de notre ère, peut être revues, hein, et juste être remixées à une bonne version. D'accord? Donc ça, c'est important. Dans ce sens-là, les jeunes se connaissent Le plus souvent, les jeunes, les futurs mariés se connaissent un peu, se sont fréquentés, parce que ce sont des jeunes aussi qui ne veulent pas du concubinage, ou c'est un peu mal vu même dans la diaspora africaine, il faut se dire, c'est même un peu mal vu, ce qui est en tout cas un peu tabou et qui n'est pas accepté hein. En Afrique, c'est d'habiter en concubinage avec notre chéri, notre amoureux, comme on dit. C'est mal vu. Donc dans la diaspora, comme je dis, ce sont des idées, des comportements, des visions un peu qu'on importe de l'Afrique et qu'on essaie de vivre ici pour un peu se préserver dans une autre culture qui n'est pas forcément la nôtre. Donc ceci fait que parfois les jeunes se connaissent avant et quand ces jeunes-là sont bien, en tout cas biaisés et ancrés aussi dans les valeurs traditionnelles et mœurs africaines, ce qu'ils font quand ils se sentent un peu prêts ou vraiment se sont décidés de pouvoir s'unir pour le mariage, ils vont avertir, comme le font de manière classique en Afrique, les deux familles pour dire qu'on est prêt pour se marier. En général, ils ont pris le temps de se connaître, soit même construire leur projet de mariage, avoir un peu une vision plus claire de leur avenir. En général, c'est juste une formalité, le fait d'aviser les deux familles. Si ces deux familles sont dans des valeurs éducatives un peu modernissimes, on peut dire, en général, ils ne se posent pas de soucis. C'est souvent, écoutez, nos enfants, on veut juste votre bonheur. Si vous êtes aujourd'hui prêt pour vous marier, c'est parce que vous avez réfléchi, c'est parce que vous vous aimez, vous vous sentez prêt à le faire. Donc nous, on vous accompagne dans ce projet. Bon, après, de manière classique, les rencontres vont se faire. Les deux familles vont se découvrir, parler aussi des mœurs, des visions et cultures, etc. Mais c'est de manière soft et dans la bonne collaboration pour accompagner à ce projet de mariage. Mais par contre, parfois toujours dans la diaspora africaine, on peut rencontrer, que ce soit la famille des deux futurs mariés, que ce soit l'une ou les deux même, ancrées dans des valeurs authentiques, les castres, ça on va en parler tout à l'heure, des problèmes d'ethnie, etc., etc. D'accord? Et lors de cette présentation des deux familles pour pouvoir concrétiser ce mariage, ben ça se finit en drame, ça se finit en problème, le début de tous les problèmes, parce que les deux familles se disent on n'est pas de même ethnie, on n'est pas de même quoi, on n'est pas des mêmes valeurs, on n'est pas en tout cas des mêmes confessions religieuses. Et là, ça pose souci, parce qu'il peut y avoir différences caractérielles de comportement, et puis surtout les jeunes qui sont nés en France, issus de la diaspora africaine, ou qui sont issus même des parents qui sont issus de l'immigration, et ben ont une vision beaucoup plus de l'amour, choisir sa femme. On leur choisit pas leur femme ou choisir leur mari, on ne choisit pas leur mari. Et donc du coup, là, tout de suite, c'est d'aplomb problématique au lieu d'associer, au lieu d'unir hein, dans ce beau projet de mariage, ça peut être déjà une division. Une division. Parce que les parents de valeurs authentiques veulent aussi que leur enfant se marie au final avec des personnes qui ne sont pas castrées. Alors castrées, un peu comme on entend en Inde ou par ailleurs, sont aussi bien des choses qui existent, des pratiques qui existent en Afrique. Et ça, par contre, je vais m'arrêter un point dessus pour dire, si on s'approche jusque sur les valeurs humaines, on doit oublier ces histoires de castres et unir les enfants s'ils s'aiment et qu'il y a le bon sens humain entre eux. Et oublier cette idéologie de castres. Castrer, c'est quoi? Il y a les forgerons, les griots. Les griots, c'est les gens dans la société africaine, que ce soit dans la diaspora africaine, que ce soit en Afrique. Les griots, c'est ceux qui relayent, hein, en tout cas, les faits passés, qui en parlent lors des événements, des mariages, qui vont aller de porte en porte chez les gens pour rappeler, en tout cas, leur histoire, l'histoire des grands-parents qui ont été des guerriers, etc. Ben ça, ce genre d'ethnie, en tout cas, sont dénommés des castres. Parce que, en quelque sorte, les griots, les forgerons, et puis il y en a tant d'autres, qui sont un peu mis à l'écart dans la société africaine, parce que se disent que ce n'est pas vraiment des ethnies à qui il faut marier, parce que pensent les autres ethnies à côté, en face de ces ethnies castrées, pensent que c'est vraiment le rang social avec un bas niveau que les autres, les nobles qu'ils appellent, ou alors les autres d'ethnies normales. Vous voyez? Et donc, ne veulent pas que leur enfant se marie. Parce qu'ils se disent, s'ils se marient, ils vont adopter aussi les mêmes traits de caractère. Hein, faire le griot, parler fort, crier, etc. C'est pas décent. Ou, pour eux, le métier de forgeron. Hein, forgeron, c'est travailler le fer. Hein, c'est quand même pas un très très bon métier. Donc, ceci explique que pour eux, ils ne veulent pas en aucun cas que, en tout cas, leur enfant s'unisse avec ce genre d'ethnie. Donc, ils les laissent livrés à eux-mêmes et surtout les castrés, les forgerons, les griots. Finalement, on se retrouve aussi dans cette situation pas simple de discrimination, on va dire, et se marient contre eux. Donc, si toutefois, par malchance, souvent dans la diaspora africaine et même en Afrique, des castrés avec les autres ethnies, des jeunes se rencontrent juste et puis s'aiment et que finalement, ils veulent se marier, ben souvent, ou alors, les jeunes déjà savent au préalable, c'est problématique parce que c'est ancré dans leur éducation d'éviter les castrés. Ou tout simplement, en Europe, les jeunes ou les futurs époux issus de la diaspora africaine, les parents ont déjà ceci, mais peut-être n'ont pas abordé de manière officielle aux enfants. Et on se rend compte, au moment venu des présentations des deux familles, des questions peuvent tomber, que ce soit chez le fils ou la future fille à épouser, et ben cette question de d'être castrée peut ressortir et là problème, boum, parce qu'on n'a pas préparé les jeunes à cela et les jeunes vont être en tout cas dans cette dynamisme de rébellion parce que finalement on choisit pas notre mari, on choisit pas notre femme, je l'aime et puis cette personne même, castrée ou pas, c'est notre vision aussi des enfants qui sont nés ici. Et là, au lieu que ça soit un moment de solidarité et d'union, ben c'est un moment qui va commencer à éclater la famille entre les enfants et les parents. Donc, je pense que l'idéologie de se dire assez souvent, les castrés n'ont qu'à se marier entre eux parce qu'ils se connaissent, parce que s'ils se marient avec d'autres ethnies qui sont des ethnies nobles, dits nobles ou de haut rang, sociaux, éventuellement, et ben c'est une discrimination et je trouve que c'est pas bien. Mais par contre, les parents qui sont dans les valeurs authentiques en Afrique ou dans la diaspora africaine ont souvent ces mots-là à dire, qui se rassemblent, s'assemblent. D'accord ? Et c'est pas forcément, en tout cas, vérifié. Parce que oui, on peut se rassembler, s'unir parce qu'on se ressemble sur des points en commun. Et on s'unit dans cela, espérant que oui, on se connaît bien, ou alors on est du même coin, on est des mêmes valeurs, etc., des mêmes coutumes, cultures et mœurs. Et ben, normalement, ça devrait bien marcher dans notre mariage, parce qu'on aura mis de côté tous les effets pas probants qui pourraient éventuellement causer après tort au mariage et vouer à l'échec, éventuellement au divorce. D'accord ? Mais ce n'est pas toujours confirmé. C'est pas toujours confirmé dans la mesure où parfois dans nos différences, on n'est pas dans la convergence, donc là on parle de divergence, et dans cette divergence là on se rencontre, on se complète. Donc cette formule, cette expression en disant qui se rassemble, s'assemble, et ben moi j'aurais dit encore dans nos différences, on peut être dans la complémentarité, dans nos différences, on peut se compléter et tenir bon sur le bon chemin du couloir de mariage. Donc voilà, juste cette veille, les parents issus de la diaspora ou en Afrique, essayez de recadrer, repositionner, revoir votre position, comme on dit en termes diplomatiques, les castres, il faut les oublier. Unissez les enfants en union mariage, facilitez les choses quand c'est possible, voilà, pour concrétiser leur amour, parce que l'amour c'est beau. Voilà, donc en tout cas dans ceci c'est important. À savoir que, toujours dans cette demande de main, qui est une période très importante avant le mariage, ce qui s'y passe en Afrique, je vais vous relayer, exposer de comment ça se passe souvent. Souvent, vous allez voir qu'en Afrique, dans les villages, c'est un peu toujours aussi différent de la valeur de la demande de main. Donc, en amont du mariage, la demande de main en Afrique en soi, en général, dans les villages où il y a encore des valeurs un peu authentiques qui y sont, c'est plus simple. Il y a moins de « on se braque moins », on est dans l'obéissance de par l'éducation qu'on a en Afrique, de par les confessions, que ce soit musulmanes ou chrétiennes, qui sont vraiment ancrées, il y en a beaucoup en Afrique, ça fait que un parent inculque des valeurs éducatives qu'un enfant doit obéir à ses parents. Et l'enfant a souvent peur de désobéir à ses parents en se disant, si je désobéis à mes parents, un jour ou l'autre, je le verrai dans ma vie. Donc les parents en Afrique, surtout dans les villages encore, je vais dire, je répète dans les villages, parce qu'en ville, c'est un peu autrement, c'est l'influence de l'extérieur et d'autres mœurs et coutumes et cultures. Mais en Afrique, comment ça se passe souvent quand il y a une demande de main? La période qui précède la demande de main, c'est que souvent, que ça soit du côté du futur mari ou de la future mariée, ce qui s'y passe souvent, c'est que les parents choisissent leur futur beau-fils ou leur belle-fille. Et parfois, sans problème, ni flûte comme on dit, ni trompette. Et ça se passe en tout cas dans une ambiance sereine, sans discorde, ni rien, en général. Quand arrive le temps pour leur fils ou leur fille de se marier, en général, les parents regardent. Mais ils ne vont pas aller chercher loin, en général, pour cette idéologie et cette vision des choses. Ils vont chercher dans la famille, les cousins, les cousines, d'accord ? Et je vais vous expliquer pourquoi dans la famille, cousins, cousines, avant d'aller plus loin. D'accord ? Qui est en âge de se marier. Donc, il n'y a pas trop l'aspect matériel. C'est plus l'aspect de se marier en famille afin de continuer de perpétuer et les valeurs. Mais aussi, en cas de problème, d'être en famille et de pouvoir résoudre ceci. Aider le couple, d'accord, à pouvoir perdurer dans les valeurs du mariage. Et surtout, leur montrer le chemin, la voie de comment entretenir un mariage. Comment perdurer dans le mariage. Comment s'immiscer. D'accord, sans trop gêner, hein, quand même, le respect des couples, s'immiscer de temps en temps quand il faut pour pouvoir, en tout cas, quand il y a des moments d'obstacles ou de problèmes dans le ménage, quand on a cherché la fille de notre cousin ou notre cousine ou de notre sœur même, il y en a parfois, c'est très très proche, en mariage pour notre fille ou notre fils, c'est plus simple parce que ça reste eux dans eux, comme on dit nous dans nous. Dans les villages encore, vous allez voir que des filles, d'accord, que ce soit les garçons en âge de se marier, ne se prennent même pas la tête d'aller chercher des femmes parce qu'ils se disent que ma mère ou mon père, au moment opportun, le feront. Donc vous voyez, c'est simple. Vous étudiez si vraiment vous êtes dans des études, si vous êtes dans autre chose, ben, vous le faites au moment opportun. Et ben, juste, il suffit juste de dire que je me sens prêt, ou alors si on tarde à le dire, c'est les parents qui vont commencer à une discussion bienveillante en disant bah, peut-être que c'est le temps, peut-être que c'est le moment, peut-être il faut y penser. Une fois que c'est fait, parce que eux-mêmes les parents ont vécu cela par leur propre grand-père, par leur propre grand-mère, par leurs propres parents, ils ont vécu cela, on leur donne en mariage. Et bizarrement, ceci, il y a ces... Le positif et le négatif. Mais on va relayer ça. Parce que le fait, bizarrement, à s'en tenir à cette manière de faire, de donner ses enfants au mariage, ce sont parfois, bizarrement en Afrique, ces mariages qui tiennent dans le temps. Parce qu'ils arrivent à régler un problème rapidement et tout ce qui est problème de discorde, de séparation ou de problème dans le couple, eh ben, si je choisis... Eux dans eux, ben, ils se connaissent déjà. Donc il y a des problèmes qui peuvent, dans le futur, poser souci et qui peuvent vouer à l'échec d'un mariage, ben, ça c'est déjà écarté. Donc c'est simple pour eux. Et parfois, quand ils disent souvent chercher une fille à un mari en mariage, mon fils en mariage ou ma fille je cherche pour la marier, souvent qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe que ce sont des gens qui connaissent déjà, ils se connaissent, ils sont fréquentés, ils ont joué ensemble, donc entre cousins. Souvent, ça ne les déplaît pas, ils se marient, font des enfants à leur tour, un mariage qui dure dans le temps, 50 ans, 60 ans. Voilà, et il faut savoir qu'en Afrique, une femme qui reste dans son ménage ou un homme qui garde bien son épouse pendant 50 ans, 60 ans, c'est des éloges. c'est des éloges, que ça soit du côté des deux familles, mais aussi des éloges entre époux, pour se dire, voilà, on a tenu bon, on a fait notre mission, qui était de tenir bon dans ce ménage. Au départ, si on donne des enfants en mariage, et surtout dans la famille proche, parfois ils s'aiment, parfois ils ne s'aiment pas. Et souvent le cas, c'est que, oui, ça se passe bien, les parents sont, en tout cas dans la proposition, les enfants sont dans l'acceptation, il n'y a pas de souci. Mais dans le cas où on marie des enfants, ça peut être parfois des cousins et cousines, mais ça peut être d'autres personnes qu'on connaît bien, des amis de la famille, etc. On unit les deux personnes en mariage, mais qu'est-ce que nous dit que c'est sûr que la femme qu'on donne en mariage était forcément amoureuse? C'est ça les points de discorde et d'inconvénient. Si la femme n'était pas amoureuse et qu'elle n'a même pas eu un petit grain d'amour et qu'on lui a donné un homme en mariage, ça veut dire que c'est quasiment presque du mariage forcé. Mais par peur de désobéir les parents, les filles acceptent. Ou par peur d'amener quelqu'un d'autre, comme ils disent en Afrique, moins que rien que la personne qui a été proposée. Et ben, donc, les filles ont souvent peur de cela et acceptent ce qu'on leur donne. Donc, du mariage forcé, entre guillemets, cette fille ne sera pas forcément heureuse. Mais attention, parfois on peut marier sa fille à une autre personne, un homme, qui est forcément au début, d'accord, il n'y avait pas cet amour, mais au fur et à mesure, avoir tombé sur un très très bon homme qui sait comment, qui a reçu l'éducation, parfois aussi sujet tabou, mais on en parlera tout à l'heure, qui a reçu l'éducation de comment bien être un très bon chef de famille.
They tell me this, they tell me that. They see my bitch, say she a bad. Anytime I knock with that. Rubber band, no rubber band. Every time I put down, they show me that. If I no pull out, she got my back. Odoye ooh, I'm happy that. Odoye ooh, say everything I do is for my woman. Anything I talk, when you talk, I go do. Me, I know they see another girl for my visuals. Loving you, now in my ritual. My girlie got me, she no stingy. She give me love, she keep on tempting. All of the moves you been practicing. Put it on, don't stop me. Girl, give me love for my moto. Girlie, your light in my store. She and me gone, I must go. She know they at, she know so. Say everything I do is for my woman. Anything I talk, when you talk, I go do. Me, I know they see another girl for my visuals. Yeah. Loving you, now in my ritual. Me, I know they share my chain. I know they like your pain. I get the baby, see. She understand my pitching. Like, wangala. Oh, mangala. I put back out for her belly. My girl, you got no problem. Oh, all of a sudden, she say, me and I go be two face and my colleague. Okay, my baby. Oh, all of a sudden, she say, me and I go be two face and my colleague. Okay, my baby. Say, anything I do is for my woman. Anything I talk, when you talk, I go do. I know they see another girl for my visuals. Yeah. Loving you, now in my ritual.
Amigo, claro, call Odo, call Anita, my baby. I give her one from the front, one from the back, on and on, let it go on. Amigo, claro, call Odo, call Anita, my baby. I give her one from the front, two from the back, on and on, let it go.
Voilà, donc après cette petite page de pause musicale, nous allons continuer toujours dans la demande de main, hein, qui est tout simplement deux familles qui se rencontrent, hein, pour éventuellement se connaître, pour, dans le but d'unir dans le futur leurs deux enfants, donc les futurs époux. Donc on parlait bien sûr dans la diaspora, et puis bien sûr le sujet là où on était juste avant cette pause, c'était si toutefois on marie en Afrique, dans les villages bien sûr, deux enfants, d'accord, qui sont des cousins proches, et qui est l'acceptation, d'accord, des deux enfants sans problème. Ça peut être bien parce que parfois, par coïncidence, ça tombe qu'il y ait un très très bon mari et qu'au départ, la fille qui a été donnée en mariage par telle personne dont la famille a eu confiance, la femme finit finalement par l'aimer, par le bon comportement du monsieur. Donc là, il n'y a pas de souci. Et c'est pour ça l'expression aussi qui est souvent utilisée en Afrique et surtout dans les villages, et on le dit aussi en capitale, bien sûr, en Afrique, qu'une femme, et c'est pour cela, en tout cas, on dit souvent en Afrique, dans l'expression de la demande de main, dans les villages, bien sûr, où c'est, comme on disait, un peu plus simple, un peu plus commode, sans problème ni bruit. Les parents donnent en mariage leur enfant, ils choisissent la famille à laquelle il faut orienter pour un mariage, etc., etc. Vous voyez, sans problème, parce qu'il y a ces valeurs éducatives, il y a du fait que les enfants ont peur de désobéir aux parents, parce que les parents sont sacrés. En Afrique, il y a le respect, etc. Et ben, qui fait qu'on dit assez souvent, et parfois qui peut être justifié, hein, et qui peut porter ses fruits, même, je vais dire, dans une autre analyse avec un petit clin d'œil dessus, hein, des mariages réussis en zone rurale et dans les villages en Afrique, on dit que la femme, hein, c'est ce qu'on dit souvent, hein, ne tombe pas amoureuse, mais la femme s'habitue. Et bien c'est pour cela, ils pensent assez souvent qu'en Afrique, le fait de donner une femme en mariage, hein, si son mari est très bien, avec vraiment haute moralité, des valeurs en tout cas de ce qu'on attend d'un bon époux, même si au départ la femme n'est pas amoureuse, avec ce bon comportement du mari, finit par tomber complètement sous le charme et d'être docile, être soumise à son mari, et puis avec ça, faire des enfants, comme on appelle ça en Afrique, bénis, dans un mariage d'obéissance, de quiétude, et puis de bonheur, hein, à leur façon qu'ils appellent ceci. Voilà, mais bon, aussi, on prend dans l'autre sens, qui est l'homme qui est aussi a été choisi par sa famille pour avoir une femme, d'accord, sans pour autant qu'il y ait de l'amour, des marches de connaître, de la draguer, comme un peu en Afrique, dans les grandes villes ou en Europe, la diaspora africaine. Là, dans ce sens, c'est compliqué, parce que oui, comme on dit aussi, l'homme peut finalement avoir une très bonne proposition d'une très belle femme, et qui finalement, voilà, avec le caractère de la femme, et tombe amoureux au final. Mais aussi l'âme qui accepte la proposition, comme on fait en Afrique, de demande d'épouser une fille de telle société ou de telle valeur culturelle, la même que ses valeurs à lui ou les valeurs de sa famille. Mais est-ce qu'on est sûr aussi que cet homme ou ce jeune homme ou ce futur époux est vraiment dans l'amour comme on définit, qui accepte parce que c'est l'heure, c'est le temps du mariage? Mais parfois aussi, le sujet reste à réfléchir. Peut-être ça se pourrait que si les parents ne sont plus en vie, l'homme sera voué à chercher une deuxième femme, donc qui occasionnera tout de suite la polygamie. Et parfois, ça veut rien dire aussi, parce que la femme comme l'homme peut tomber aussi sur une excellente épouse, et l'homme, là, dans ce cas-là, ne cherchera pas à épouser une autre personne, et avec cette fille, ils vont pouvoir, en tout cas, se marier dans le respect, dans l'amour, dans l'ambiance, dans le soutien, hein, l'ambiance maritale qu'il faut, et le bon comportement surtout, hein, qui a en tout cas besoin pour pouvoir réussir cela. Vous voyez ? Donc, suivant, éventuellement qu'on soit en Europe, d'accord, donc vraiment les Africains issus de la diaspora africaine, il peut y avoir des points de convergence avec ceux qui sont en Afrique sur les demandes de mariage, les demandes de fiançailles, les difficultés ou pas qu'on peut rencontrer à unir deux enfants. Et il faut aussi parler de la diaspora africaine. Il n'y a pas que l'union entre deux familles africaines. Il peut y avoir aussi l'union entre deux êtres, tout simplement, qui s'aiment et qui peuvent être de cultures différentes, qui peuvent être de communautés différentes, qui peuvent être de couples mixtes, donc africains et aussi là, on va dire, européen ou français, etc. D'où là aussi, c'est une question de l'éducation des parents, de leur vision des choses et de leur intégration en Europe. Vous voyez, si vous êtes avec des parents qui sont vraiment dans des valeurs authentiques et qui ne veulent pas pour rien au monde délaisser leurs valeurs culturelles, parfois aussi en raison de pouvoir s'attacher à leurs valeurs de l'Afrique qu'ils ont importées ici, et parfois aussi ils ont tort parce qu'ils n'ont pas bien aussi pris le temps, ils sont juste dans les qu'en dira-t-on, d'accord, pris le temps de connaître la personne en face qui demande leur fille en mariage ou alors qui veut s'unir avec leur fils. Donc voilà, il faut vraiment analyser, avoir le juste milieu, avoir le pour et le contre et voir comment faire pour faciliter le mariage, l'issue de la diaspora africaine. Encore en Afrique, dans les villages et villes déjà, il y a une différence de ce qu'on appelle demande de main ou la période amont, en amont du mariage, donc sur cette demande de main. En capitale, il se passe les mêmes idéologies de refus, de blocage, de vraiment se dire que en Afrique, même dans les capitales, les jeunes qui veulent se marier souvent font un peu comme les jeunes en Europe parce qu'ils sont un peu bien éduqués, pensent droit, veulent plus parler de mariage forcé, etc. Donc parfois s'imposent toutefois leur choix, d'accord, d'épouser une telle personne, les parents s'y opposent. En capitale, même en Afrique, il peut y avoir le problème majeur de séparer les enfants et de leurs parents parce qu'ils n'ont pas accepté pour des raisons parfois que les parents peuvent avoir. Et là encore, même en capitale en Afrique, ça peut être des parents intellectuels et parfois ça se pose moins de soucis, c'est plus dans la compréhension, dans le conseil, la bienveillance, mais parfois ça s'oppose pas farouchement. Et parfois même en capitale, il y a encore des personnes authentiques comme on retrouve en Europe qui sont dans leurs valeurs, dans leur ethnie, et puis le mariage, c'est deux familles qui s'unissent, etc. et aussi pose soucis. Mais en tout cas, il faut savoir que c'est important. Je pense que là, dans ce côté-là, il faut vraiment voir pour les familles qui sont très authentiques. Et authentique ne veut pas forcément dire des personnes qui ne sont pas lettrées. On peut être très lettré, être médecin, mais s'accrocher à nos valeurs culturelles. Donc là, dans ce sens aussi, on peut avoir de la chance si on a une personne très éduquée et qui veut éventuellement s'attacher sur ses valeurs, parce que quand on dit de valeurs et de vertus, c'est forcément du positif. Donc prendre ces valeurs-là d'une personne qui est vraiment lettrée et s'opposer ou pas sur l'union de ses enfants, c'est parce que parfois il y a une bonne analyse et une bonne raison. D'accord. Et parfois, il peut y avoir des personnes qui ne sont pas lettrées forcément, mais qui sont en tout cas dans les valeurs authentiques et une bonne compréhension très intelligente des choses, qui aussi s'opposent ou apprécient telle union de leur futur enfant, et il peut avoir aussi des raisons. Comme il y en a d'autres qui sont vraiment farouchement dans l'authenticité, que ce soit en Afrique, dans les capitales, au village, ou même issus de la diaspora africaine, qui s'opposent parfois, c'est vraiment, ils n'ont pas voulu mettre la jurisprudence, avancer avec le temps, et voir ce que faisaient leurs parents, leurs grands-parents, dans les valeurs culturelles, etc., et qu'est-ce qui reste à laisser complètement arrêter, et qu'est-ce qu'il faut quand même continuer, parce que la jurisprudence permet tout simplement de se dire aujourd'hui on change de cap de vision, avant on pensait comme ça, maintenant on pense autrement. Remarque, même les médecins le font. Quand on pensait que le cerveau se trouvait juste au niveau de la tête et qu'on ait pensé comme ça depuis très longtemps, les médecins, tout récemment, dans cette jurisprudence, dans leur recherche et analyse, se sont rendus compte que finalement, le cœur même a un cerveau. Et donc, c'est le cerveau peut-être qui commande, le cerveau de la tête, pour pouvoir commander la personne dans ses gestes, sa manière de penser, dans gesticuler, etc., etc. Donc, voilà, cet exemple montre qu'il ne faut jamais rester juste sur une position, sur des valeurs, rester ancré dessus et ne pas vouloir changer avec le temps. Essayons quand même de faire bouger les lignes, mais toujours dans le sens d'analyse en tout cas respectueuse et surtout équitable, et voir ce qui est aussi bien, pouvoir faire avancer les choses dans le bon sens. Alors, ce qu'il faut aussi noter dans tout cela, voilà, les demandes de main en mariage, hein, pour la diaspora africaine ou en Afrique, voilà, donc relève pas mal de questions, d'analyses. Il y a beaucoup de convergences, mais aussi beaucoup de divergences. Hein, et dans cela, on peut analyser que de la richesse, hein, parce que converger, diverger, il faut avoir juste cette bonne posture d'analyse pour savoir éventuellement comment on fait avancer les choses, analyser le pour et le contre et pouvoir faire aider les futurs époux dans leur projet de mariage. Voilà. Alors, en tout cas, on va pouvoir poursuivre dans cette thématique qui est vraiment aussi très très intéressante, hein, qui est le mariage, la demande de main ou les fiançailles, hein, en ce qui concerne voilà, en Afrique et dans la diaspora africaine. Bien entendu, de temps en temps, comme vous le savez, on met l'accent, en tout cas, sur des points qui relèvent beaucoup plus de conseils, de vision, de chronique. Dessus, on n'hésitera pas, en tout cas, à vous faire relayer tout ceci. Et puis partager avec vous. Et je pense que même prochainement, ce qui serait plus intéressant, c'est d'ouvrir la radio et de laisser les gens appeler, hein, que ça soit de la diaspora africaine, que ça soit même en Afrique, et même ceux d'autres qui ne sont pas forcément de la diaspora africaine, mais qui ont connu des valeurs en Afrique, que ça soit les Français, tout le monde est convié, hein, Européens, Américains, Canadiens, de pouvoir venir aussi participer avec nous sur les thématiques liées à la diaspora africaine. Hein? En tout cas, voilà, donc ce qui est aussi intéressant à savoir que il y a une partie très importante à savoir, qu'est-ce qui se passe pour la préparation du futur marié ou des futurs époux, là, que ce soit côté future épouse ou futur époux. Ce qui s'y passe en Afrique, et je pense quelque chose de semblable dans la diaspora africaine. Il y a quand même un sujet qui est très tabou, c'est parler de la sexualité dans le mariage, de savoir comment s'y prendre, etc., etc., avant, d'accord, ce mariage, découvrir les parents qui ont déjà eu des sujets tabous dans ce sens, avec leurs propres parents, ben, répercutent la même chose chez leurs propres enfants aujourd'hui, tendance. Et combien de fois j'ai entendu, d'accord, dans la diaspora africaine, hein, d'origine, que ce soit maghrébine, que ce soit de l'Afrique de l'Ouest, des jeunes filles dont j'ai rencontré qui m'ont dit bon, bah, nous nous sommes mariés très tôt, comme on veut en tout cas, et la tradition est dans nos coutumes. À 19-20 ans, on s'est mariés, mais quand on s'est mariés, il y a un sujet tabou, on était bloqués pour notre nuit de noces, pour plusieurs niveaux, d'accord. Voilà, donc ça, c'est vraiment des sujets tabous à qui j'invite quand même les parents, que ce soit issus de la diaspora africaine ou en Afrique, d'en parler. Hein? Que ce soit si la maman peut en parler avec sa fille, c'est rien. Ça évite tout simplement que les enfants aillent découvrir cela autrement. Aujourd'hui, avec Internet, s'ils veulent se renseigner, peuvent se renseigner. Mais leur en parler, et dans la bienveillance, et voilà, aller sur les points clés sur lesquels au moins minimum. Alors, vous savez pourquoi ces sujets tabous en Afrique et qui a été aussi importé en Europe, issu de la diaspora. En Afrique, le fait pour eux, en tout cas avec leur confession religieuse, leur croyance, etc., le fait de parler de sexualité à leur enfant bas âge, 13, 14, 15 ans, et ben pour eux, c'est déjà pas exemplaire en tant que parent. Et pour eux, le fait de parler, que ce soit le papa qui parle à son futur, en fait, son fils, ou le futur marié, de sexualité, ainsi pareil, la mère qui parle de sexualité à sa fille, qui sera aussi future épouse un jour, qui sera épouse elle-même, c'est un peu au contraire de notre mœurs, parce que pour eux, c'est pas dans l'exemplarité, pour eux, c'est finalement Inciter en mal sur l'éducation sexuelle de leur enfant et leur faire découvrir ce qu'il faut, en tout cas dans notre idéologie en Afrique et dans la diaspora africaine existe, être chaste et être vierge jusqu'au mariage. Vous voyez ? Parce que c'est de l'honneur pour une maman d'éduquer sa fille surtout et d'avoir sa fille en Afrique, bien sûr, être vierge. Donc, le fait pour eux de ces sujets qui sont un peu tabous déjà, eux, elles ont vécu cela, ou eux-mêmes, parce que les parents aussi, les maris ont vécu cela, c'est tabou, la sexualité. Et donc, du coup, répercute la même chose. Oui, on ne vous dit pas d'en discuter de manière permanente et tout le temps, mais c'est bien de temps en temps d'en discuter. Donc, d'avoir la chance quand même, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora africaine, avoir des parents qui vous en parlent de l'activité sexuelle et comment bien aussi être avec son époux, avec son épouse, même sans aller dans les grandes lignes, c'est aussi déjà un sujet qui va rendre, en tout cas, beaucoup plus ouverte les enfants issus de la diaspora pour aussi maintenir. Et ce qu'on oublie aussi dans le mariage, cette partie aussi dite sexuelle est aussi importante. Mais si nos enfants, on ne leur en parle pas, on leur cache, ils vont découvrir autrement aujourd'hui par Internet, mais que ce soit la même chose, dans les villages en Afrique, dans les capitales en Afrique, que ce soit issus de la diaspora, ils sont tous au courant, plus ou moins, de ce qui se passe sur Internet. Donc, ils vont le découvrir autrement. Ils vont faire des choses à notre insu et c'est encore plus dangereux. Et par contre, si on ouvre cette discussion, qui est aussi importante à la préparation de nos enfants sur ce que c'est que le mariage, on peut être sûr que dès lors qu'ils auront des questions, ils ne vont pas aller sur le net, ils ne vont pas poser des questions ailleurs, ils vont venir nous voir. Voilà, ça c'est important. Maintenant, il y a aussi une très très bonne chose qui est vraiment très très positive, c'est qu'en Afrique, le comportement, la résilience, la patience du futur époux et comment doit se comporter un homme pour vraiment réussir son mariage et comment doit se comporter une femme, d'accord, dans la résilience pour bien maintenir et rendre agréable son mariage, être à l'écoute, être docile, demander autorisation à son mari, etc. Il y a quand même une belle préparation, que ça soit religieusement, confession musulmane chrétienne, voilà, il y a déjà des codes dans chaque confession pour leur dire à peu près comment doit être une femme, bien dans un mariage, comment doit être un homme, bien dans un mariage pour la durée. À vie dans ce mariage. D'accord ? Donc ça, il y a une préparation dessus et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut partager et même qu'il faut partager en Europe. Vous voyez ? Donc là, on s'arrête sur des points sur lesquels bien comme mal ou pas bien vu ou qui demande à être redressé, revu, remixé, refait. D'où là, j'apprécie beaucoup l'éducation quand même. On va dire comportemental des futurs époux dans leur mariage. Alors, souvent, qu'est-ce qui s'y passe dans la famille, si c'est pas la maman, parce que c'est un peu tabou, d'accord, même d'autres sujets qui sont juste, comportementaux, ça peut être la grande sœur aînée, d'accord, ça peut être celle qui nous a appris un peu ce que c'est que les pratiques de notre religion, qui nous disent comment une femme doit être. On nous dit souvent, c'est pas parce que vous êtes une femme qui écoute son mari, qui demande l'autorisation de son mari, que vous n'êtes pas une femme au diapason. Bien au contraire, c'est dans la douceur, c'est dans l'écoute, c'est dans le soutien. C'est dans le fait de respecter que ton mari, c'est le chef de famille et que toi, n'oublie pas que tu es ministre de l'environnement, d'accord, qui est derrière ou aux côtés de ton mari, vous devez être une équipe, comme une équipe solidaire, dans une bonne collaboration éthique. Donc, pour ce faire, dans l'écoute, dans les demandes d'autorisation, dans faire ce que aime ton mari, et comme on dit souvent en Afrique, nos parents, nous ne voudrons jamais du mal, même s'ils s'opposent parfois farouchement à quelque chose, c'est toujours dans notre bien. C'est pareil aussi. Dans une vie de couple, si c'est bien réussi, si c'est bien dosé, notre mari, normalement, ne nous voudrait pas du mal. Donc, tout ce que notre mari va nous autoriser de faire, c'est parce que tout simplement, c'est bien. Et on estime que, en Afrique, avoir son mari, c'est comme si c'est même pas comme si c'est ton tuteur. Donc, ton tuteur doit t'autoriser à faire ceci, à faire cela. Dans la mesure où la fille n'est plus entre les mains, d'accord, de ses parents et qu'on te donne en mariage, ton nouveau tuteur, c'est ton mari. Donc, demander son autorisation et que l'autorisation soit acceptée, cette demande soit acceptée par une autorisation, ça veut dire que c'est forcément une bonne chose que ton mari t'autorise. Donc, même pareil, dans le même sens, c'est interdit. Quand il y a quelque chose qui t'est interdit par tes propres parents et que par analyse aussi logique, ton mari te l'interdit, il faudrait l'accepter. Mais vous allez voir dans ce sens, dans cette obéissance, dans l'accompagnement, l'amour, le soutien qu'une femme peut avoir avec son mari, si son mari aussi est intelligent, la capacité d'analyser, de comprendre et d'être aussi à son niveau, de son côté, avoir eu reçu l'éducation en amont du mariage, de comment il faut se comporter, l'adopter, y réfléchir, méditer et mettre en exergue les jours J qui vont en tout cas précéder leur mariage. Et ben, ce mari aussi qui a une femme en face qui demande autorisation, qui l'écoute, qui soutient, qui est là pour le meilleur et pour le pire, normalement, si c'est un bon mari conscient, sera aussi automatiquement dans l'obéissance pour sa femme. Peut-être ce ne sera pas cantonné mon obéissance, mais fera tout ce dont sa femme souhaiterait ou aimerait de lui. Normalement, ben, ce n'est pas toujours le cas. Il est toujours facile à dire qu'à faire. Mais donc, dans la soumission donc, en Afrique, qu'on voit, ben, la femme doit être soumise, mais derrière, dans cette soumission, quand elle est bien duliée, bien faite par l'épouse, et qu'en face, on rencontre un homme qui est aussi très bien réfléchi et qui a aussi une très belle préparation, en tout cas, du mariage et qui même a vu aussi ses parents se comporter ainsi dans le respect. Normalement, cette femme aussi a un mari, mais vraiment sur le choix d'un bon mari et qui va pouvoir piloter ensemble, en tout cas, un mariage bien réussi. Donc, dans la soumission que vous entendez souvent, la femme, non, elle est indépendante, la femme, etc. Mais dans cette soumission-là, quand c'est bien fait, il y aura l'indépendance de part et d'autre. Et vivre, on va dire, tranquillement. Tranquillement, en tout cas, un très bon mariage, hein, dans ce sens. Alors, pour la vie sexuelle, on y revient dans ces sujets qui sont un peu tabous. Il faut se dire que c'est plus, bon, je dirais, hein, pour faire un peu un petit résumé à ça, si le comportement des futurs époux et dans leur préparation comportementale a été bien faite, c'est le plus important même que normalement la vie sexuelle, si toutefois on a eu des manquements de nos parents par un sujet tabou de gêne, etc., pour X raisons de valeurs culturelles ou traditionnelles, si toutefois ça n'a pas été bien transmise, il faut savoir quand même ce que j'ai dit souvent. Voilà, ça peut toujours se rattraper avec le temps, la vie sexuelle, etc. Parce que, oh, je dis souvent, comme Adam et Ève n'ont pas appris ce que c'était forcément la vie sexuelle, mais au moment opportun, quand ils sont descendus sur terre, naturellement, l'accouplement s'est fait. D'accord ? Voilà, donc il n'y a pas de raison aussi, si toutefois, les couples n'ont pas pu vraiment avoir cette éducation sexuelle, ne serait-ce comprendre un peu, avant le mariage. Voilà, donc je reviens vers vous pour partager en tout cas quelques expériences personnelles sur la thématique aujourd'hui abordée. Bien sûr, je rappelle, c'est la radio Nuits FM à Grenoble. Donc, de mes expériences sur la thématique, le mariage dans la diaspora africaine ou en Afrique, tout simplement. Alors, de mes expériences, je suis consultante et formatrice dans des écoles à Grenoble, aux alentours, que ce soit en ligne ou en présentiel. Donc, de mes expériences en tant que conférencière et panéliste, hein, j'ai eu des conférences avec des mairies en France pour les aider à comprendre mieux la mentalité des immigrés, la diaspora africaine, afin de les accompagner au plus juste possible. Hein. Donc, il m'a été, en tout cas, demandé de faire des exposés devant des collèges d'experts, médecins, des psychologues, etc., français, à qui avaient besoin, en tout cas, de ceci pour mieux, en tout cas, servir et accompagner les immigrés. Donc là, dans ce sens, ce sera vraiment le sujet, le mariage ou en tout cas la culture dans la diaspora africaine en Afrique, mais aussi ce qui s'y passe vraiment réellement en Europe, dit et rapporté par les Français. Quand, en tout cas, j'ai évoqué dans la discussion de l'exposé que la sexualité en Afrique et dans la diaspora africaine était en tout cas un peu un sujet tabou et qui gangrenait pas mal de choses, en tout cas des médecins, des experts français dans des mairies où je fais souvent des conférences m'ont répondu que la sexualité, on peut vous rassurer que c'est la même chose aussi en Europe, en France. Parce que eux-mêmes de leur génération n'ont pas aussi eu de manière claire et précise, en tout cas, une éducation sur la sexualité, parce que tout simplement c'était tabou par leurs parents, qui sont ou français ou européens, éventuellement, et que dans ceci c'était vraiment une culture mondiale qu'on rencontrait assez souvent dans sa généralité, que la sexualité et l'éducation sexuelle, c'est pas en tout cas automatique dans toutes les familles du monde à préparer les enfants dans ce sens. Voilà. Donc pour vraiment un petit aperçu de ce qui se passe aussi en Europe. Alors voilà, aussi vraiment un vécu que j'apporte par rapport à la thématique, donc personnellement. On parlait tout à l'heure en tantôt début de l'émission sur le mariage ou la période avant mariage, donc qui était quand même cruciale pour pouvoir en tout cas se dire comment ça se passe réellement le mariage sur le terrain. Moi, j'ai eu personnellement, en tout cas, des jeunes issus de la diaspora. C'est pas tout le temps que des jeunes se disent on ne veut personne dans notre vie de couple, c'est notre vie en Europe, comme les jeunes disent un peu, et puis on va les mener notre vie comme on l'entend, que les parents acceptent ou pas, c'est ma femme, c'est mon mari, on ne veut que personne s'immiscie sur notre choix de, d'époux ou d'épouse. J'ai eu personnellement, en tout cas, des jeunes issus de la diaspora qui sont bien éduqués, qui ont quand même eu aussi, on va dire, voilà, des parents biaisé entre l'authenticité mais l'éducation, qui eux-mêmes ont reçu une très bonne éducation, en tout cas qui m'ont dit en conscience qu'on est jeune, on veut se marier, d'accord, pour au moins être ensemble, être tranquille sur le fait que notre amour, même si on est jeune étudiant, puisse au moins acter par un mariage et que tous les deux on est tranquille pour poursuivre notre étude tranquillement, puis se dire que voilà, on s'aime et puis voilà, on sera quand même accompagné. Moi, j'ai eu des jeunes issus de la diaspora qui m'ont dit nous, on veut bien que nos parents nous accompagnent de bonne moralité à nous accompagner sur le chemin et couloir du mariage. Voilà, donc voilà, c'est pas forcément des jeunes qui vont dire on ne veut que personne s'immiscie du côté des belles familles, c'est notre mariage, c'est notre vie, etc. Il y a quand même des jeunes qui, en tout cas, aimeraient bien être coachés, accompagnés, que ce soit des parents, que ce soit des membres de leur famille, qui pourraient les accompagner parce qu'ils sont conscients qu'ils sont jeunes. Mais bon, l'amour n'a pas de frontières ni d'âge. Ils s'aiment et ils veulent, en tout cas, être tranquilles, s'unir dans le mariage. Et dans ce cas-là encore, il y a juste un sujet. Ces jeunes-là sont tout simplement, en tout cas, le côté futur époux, c'est tout simplement mon fils. Donc, c'est vraiment du vécu. En tout cas, je vais en profiter de cette occasion aussi pour dire que c'est important aussi que la période de demande de main, que les familles du côté de la fille, d'accord, soient vraiment dans la compréhension et surtout ce qui se passe en Afrique et dans la diaspora africaine, de savoir que la fille, l'être humain, on peut pas vendre. Et d'arrêter de donner des dots trop trop chères. Et de rendre difficile l'union de deux personnes qui s'aiment par l'amour qui est quantifié sur une durée. Donc ça, c'est important. On n'en a pas parlé, donc je reviens dessus. C'est vraiment la compréhension de deux enfants qui s'aiment, qui veulent s'unir, que ce soit à jeune âge, que ce soit plus avancé. Mais dans la mesure où deux jeunes personnes, dans leur cœur, fleurissent l'amour et sentent un besoin, à un moment donné, de faire une demande de main, fiançailles ou mariage, c'est très important de les accompagner et sans pour autant vendre la fille, sans pour autant se mettre dans des codes de mœurs ou de coutumes et de taxer trop cher à la famille du côté du mari. Parce que ce qui s'y passe souvent, il y a parfois c'est pas le cas, ça se passe très bien. Vous pouvez dire on dote notre fille à tel montant, il n'y a pas de souci. Voilà, on amène ce montant et les gens se marient, et ça va très bien, on fait la fête parce qu'il y a les moyens de part et d'autre. Mais parfois, on peut taxer trop cher une fille, on ne taxe pas, on ne vend pas une fille, on donne en mariage. Tellement que l'être humain est tellement importante en qualité, en quantité, tout ce dont vous voulez dans la vie, qu'il ne faut pas vendre, il ne faut pas taxer, il ne faut pas doter trop cher. Il n'y a pas de prix. Et comme il n'y a pas de prix, facilitez les jeunes, les enfants qui veulent se marier à l'union et les accompagner à ce que, en tout cas, une préparation plus de leur futur foyer, dans leur appartement, acheter tout ce qui doit rentrer dessus que de penser à un seul jour de mariage parce qu'on est du côté de la fille, on veut quand même faire la fête. Oui, la fête, je pense, ça se ressent. On veut faire, mais pas de cette occasion-là si toutefois vous pouvez unir deux personnes. Et les mariés, ça aussi c'est vraiment des mœurs et des coutumes qui sont ancrées parfois en Afrique, pas tout le temps, hein, mais je le dis juste pour ces points-là, sur lesquels les gens peuvent ne pas se marier parce que tout simplement la belle famille a taxé trop cher. Parce que souvent, qu'est-ce qui s'y passe? Il peut y avoir que la femme, non, qui est taxée, dotée trop cher, le monsieur va tout faire pour l'amener, mais parfois, quand une fois que c'est fait, le monsieur n'a plus de respect pour la fille dès lors que la fille entre chez lui. Vous voyez, donc, mais aussi, il peut y avoir d'autres personnes qui sont beaucoup plus dans la grandeur d'esprit, les taxer ou pas, ils vont aller les chercher difficilement ou de manière facile, mais qui quand même gardent de plein droit et surtout de la plus belle manière la fille. D'accord? Mais c'est juste, en tout cas, pour l'éveil de conscience dessus, dont je pouvais apporter à cela. En tout cas, c'est magnifique. Le mariage reste le moment où les futurs époux et leurs familles respectives d'huiler les relations, se connaître, être dans la tolérance, unir deux jeunes qui s'aiment avant tout, les accompagner dans ça, d'accord, et faire tout de sorte que tout ce qui pouvait être problème ou difficulté les rende possibles avec des solutions, mais pas parfois voilà, s'acharner, on va dire, sur voilà, un non, et dire non aux enfants qui veulent se marier ou aux jeunes qui veulent se marier juste parce que c'est une tradition, juste parce que c'est des ethnies, des problèmes de caste. Je trouve qu'aujourd'hui, ça doit éradiquer ceci. Alors, on va parler après cette demande de mari ici, on s'entend et puis finalement on donne, comme on dit en Afrique, la bénédiction des enfants à se marier. On les accompagne dans ce projet. Il y a en tout cas différents. Je pense que c'est vraiment la période la plus compliquée, c'est demande de mari, présentation des familles. Une fois c'est acté, normalement, les relations suivent. Les deux familles restent une famille unie pour accompagner à ce beau projet du couloir de mariage pour leur enfant. Donc les deux mariages, type de mariage qui existe, souvent c'est mariage coutumier ou traditionnel, d'accord, où vraiment en France, aux yeux de la loi, est considéré ce mariage coutumier ou traditionnel comme un concubinage ou couple. Donc en Afrique ou dans la diaspora africaine, voilà, on sait que deux personnes se sont mariées de valeur traditionnelle, sans pour autant qu'il y ait l'équivalence de papier, mais c'est pas là des fiançailles, c'est vraiment un mariage coutumier ou traditionnel. Voilà, même si en France c'est considéré comme du concubinage, eux dans leur tout ce qui est étatique, culturel et cultuel, sont tranquilles parce que voilà, ils ont fait le mariage traditionnel. Parce que le mariage n'est tout simplement en général l'union de deux personnes et qui par derrière les deux familles en s'unissent dans leur accord. Vice versa, côté fille et côté garçon, et pour les unir. Donc que ça soit fait de manière de traditionnelle ou coutumier, le mariage coutumier, ça reste en tout cas un mariage qui est valable psychologiquement et étatique, et ça dépend des pays. Alors existe aussi le mariage civil, et je mets un petit slash à côté des civils religieux. D'accord? En France,
le mariage civil va de pair avec le mariage religieux. Ou le contraire, religieux va de pair avec le mariage civil. Pourquoi ? Parce que pour éviter en tout cas qu'il y ait des abus, tout mariage religieux en France, et ça c'est très bien, d'accord, l'imam, bon, que ça soit l'imam, je ne sais pas comment ça se passe chez les chrétiens, l'imam doit demander une date de mariage civil. Parce qu'il y a eu beaucoup d'abus, il y en a eu beaucoup qui se sont mariés. D'accord, religieusement, en disant qu'ils ont fait le halal et que c'est bon, et quelques temps après, divorce et laisser les femmes seules avec des enfants. Donc, pour protéger ceci, les imams sont condamnés si toutefois ils font des mariages religieux sans pour autant qu'il y ait un mariage civil pour protéger et la femme et les futurs enfants qui vont naître de ce mariage. Contrairement, le mariage religieux en Afrique, et dans les pays de l'Afrique de l'Ouest et même par ailleurs, l'Afrique du Nord, par ailleurs, l'Afrique centrale, même l'Afrique du Sud, le mariage religieux a un poids, c'est-à-dire que deux personnes peuvent s'unir religieusement, d'accord, et à vie et jusqu'à leur mort. C'est le poids, en tout cas, cultuel et de leur confession qui sont, en tout cas, vraiment plus important que même le mariage civil. Dans la mesure où religieusement vous êtes marié, en Afrique il n'y a pas forcément l'obligation de se marier en civil. Sauf que ça se fait vraiment plus en plus, les familles intellectuelles savent aussi l'intérêt comme tout en France. Se marier civilement, ça protège la femme, mais ça aussi protège éventuellement les enfants de vraiment tout manquement ou des difficultés qui peuvent aussi surgir un jour en cas de divorce. Qui dit mariage dit aussi divorce, hein. Ça va pas forcément de pair, mais voilà, quand on s'unit toujours, c'est le bonheur de vivre à vie et de partager un couloir de bien-être, bonheur, amour du mariage. Donc voilà, le divorce existe, il faut le savoir, mais franchement se marier, voilà, donc comment est-ce que les parents, comment est-ce que sur la diaspora, les valeurs, les traditions peuvent tellement coopérer en bien pour la réussite de ces mariages. Alors un autre point à aussi fixer, c'est le pax. En tout cas, le fait de se paxer n'existe pas en Afrique. Dans la diaspora africaine, il y en a des jeunes ou des couples mixtes qui se paxent pour l'amour, pour X raisons, etc. etc. Sachez qu'en Afrique, c'est pas reconnu, c'est pas dans leurs droits, c'est pas dans les mœurs. Donc voilà, en général, soit c'est des fiançailles, soit c'est une demande de main, soit c'est le mariage en question. Et voilà, cette demande de main, les fiançailles, en général, c'est une période qui vient un peu en amont du mariage. Alors, il se passe quoi souvent pour les couples qui font une demande de mariage, comme je disais, soit c'est proche, tout de suite chez les musulmans, ça se fait comme ça. Vous voulez vous marier ou vous ressentez le besoin de vous marier, on vous y aide. Normalement, c'est ça. Donc, en une semaine, après la demande de mariage et rencontre des deux familles, ça se fait. Ou soit, parfois, c'est une date lointaine parce que voilà, le couple a besoin de préparer, de mettre des fonds. Les familles ont besoin de mettre des fonds pour, en tout cas, faire un mariage bien réussi. Une fois que le mariage est établi, aussi en Afrique, il se passe souvent quelque chose qui est aussi très, très importante. C'est que du côté de la fille et comme du côté du mari, il y a des parents qui sont là, qui accompagnent le couple, hein, dans les conseils, quand il y a des problèmes, des difficultés, les conseils voilà, de pouvoir surmonter les problèmes pour ne pas avoir le choix forcément tout le temps de parler de divorce, mais de trouver des solutions. Chaque problème a des solutions. Pouvoir maintenir un mariage dans sa longue durée, mais aussi dans la compréhension des uns et des autres. Hein? Ce sujet est tellement important et vaste, hein? En tout cas, donc ce qu'il faut noter, voilà, ainsi qu'il faut résumer, que le mariage en Afrique et dans la diaspora africaine, souvent des valeurs, des cultures qu'on est en Afrique s'importent en Europe, et parfois ce qui peut faire la différence, c'est la vision des choses, l'éducation des parents, la compréhension des parents, les enfants ou les futurs époux, même dans leur dimension de se prendre en charge dans le mariage ou pas, ont besoin d'être accompagnés ou pas, ou ont eu les informations requises pour pouvoir mener à bien, qui mixent entre en Europe ou dans la diaspora africaine, entre la modernité et limite de la culture et de la vision, leur propre vision, vision des parents. Et en Afrique, ce qui se mixe, c'est vraiment dans quel contexte qu'on a été éduqué et dans la vision des choses et ce qui se pratique en Afrique en question de mariage. Donc tout ce qu'on a relayé pour parler de mariage, amour, qui parle d'ouverture d'esprit, d'approche l'un à l'autre. Et dans ceci, on a vu des convergences et des divergences, et tout pour dire l'amour fait partie de l'humain. L'amour fait partie, en tout cas, on dit que c'est le cœur, mais c'est la pensée, c'est la manière d'être, c'est l'éducation, c'est tout. Donc apprenons de manière générale, pour autant juste parler de mariage en Afrique ou dans la diaspora africaine, s'aimer avant tout, l'amour, c'est vraiment ce dont tout le monde doit semer dans la vie, l'amour entre nous. Et de là, je pense que pour avoir à former les bons citoyens de demain, ces citoyens même vont s'unir en mariage. Donc si on a l'amour entre nous, l'amour pour nos prochains, l'amour pour l'humanité, l'amour pour tout simplement l'être humain, quand on va se marier en ayant ces amours-là, on se retrouve entre future épouse et futur époux dans ce dynamisme d'amour collectif, ça ne peut que bien marcher. Et donc encore un petit clin d'œil aux familles aussi de semer cet amour autour de nous afin d'unir deux amoureux sur les couloirs du mariage. C'est ainsi, en tout cas, je vous dis la fin de l'émission sur un sujet très 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 intéressant. D'accord, voilà, cette thématique à qui je pense prochainement, on ouvrira les micros pour laisser aussi le choix à d'autres personnes, que ce soit le mariage et d'autres thématiques, hein, tellement, tellement intéressantes qu'on pourra échanger. Et bien, ainsi, je vous dis à une prochaine émission sur la Radio News FM, tous les mardis de 12h à 13h. Merci beaucoup, chers auditeurs, et à très bientôt.